Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, on est avec Émilie Echem. Salut Émilie.
Salut.
Qui n'est pas la cousine a priori de Alizée Echem que vous avez déjà
Effectivement.
vue sur les vidéos et notamment sur les interviews de 50 Femmes Inspirantes. Mais tu la connais aussi Alizée puisqu'on a fait appel à toi pour faire un shooting photo, dont je reçois toujours des très bons commentaires à chaque fois qu'on publie des photos qu'on a faites avec toi. Les gens me disent « Ouais, t'as bonne mine, ça a l'air d'aller trop bien et tout. » J'ai dit « Bah oui, voilà. » C'est la joie de passer par une photographe comme Émilie, donc qui est venue nous faire des photos professionnelles dans l'entreprise. Alors, tu n'as pas fait des études a priori pour devenir photographe au tout départ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel avant de devenir photographe?
Ouais. Alors du coup, après mon bac, je suis partie en droit, pas par dépit. J'avais vraiment envie de faire une carrière dans la police criminelle et dans tout ce qui concernait le pénal. Du coup, je suis partie là-dedans. J'avais quand même une fibre artistique, mais pour moi, c'était quelque chose de vraiment à côté, passion et surtout qui rapportait pas d'argent. Donc la question s'était jamais posée. Et vu que j'avais cette envie-là, je suis partie en droit. Donc, j'ai fait mes études, un master 2 en droit pénal et sciences criminelles. Sauf que, après 5 ans et la découverte vraiment des métiers, du terrain, etc., je me suis dit que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Sauf que, j'avais mon master en poche et puis j'avais pas beaucoup de possibilités. Et je savais que j'aimais bien gérer, mettre en place des choses, des trucs, des process et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais me réorienter en ressources humaines, donc droit du travail. Il y avait quand même un lien. Et j'ai fait un autre master en me disant, je vais travailler là-dedans.
Ok.
L'ai fait en alternance. Et là, par contre, j'allais dire cata, pas cata, mais je me suis dit, mais. Oh. J'ai passé un an dans des bureaux, donc en alternance, et je me suis dit, mais je ne veux pas passer ma vie dans un bureau comme ça, à faire ça. C'était intéressant, mais c'était quand même pas ça que j'avais envie. Et mon alternance est finie, et j'ai dû trouver du travail, donc avec mon bagage droit, ressources humaines. Et c'était la galère. C'était, je ne sais pas comment c'est en ce moment, mais en tout cas, à l'époque, donc j'avais deux Master 2, j'avais que des annonces avec des trucs au SMIC et où j'étais même pas prise. Dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes et je leur disais, alors, vous avez fait quoi? Et puis, ils avaient genre trois masters. Je me disais, OK, bon. Et voilà. Et donc, et déclic un jour où je suis allée à un forum, c'est le truc qu'il y a dans les parcs des expos, là où les entreprises, elles viennent pour qu'on leur dépose leur CV. Et oui, il y avait des queues interminables pour postuler dans des banques et des trucs comme ça. Et je me disais, ah, mais j'ai tellement pas... déjà, j'ai pas envie d'y travailler. Mais alors, si en plus, il faut que je me batte pour y travailler, ça n'a aucun sens. J'étais en concurrence avec des dizaines et des dizaines de personnes et pour un truc que j'avais pas envie de faire. Et donc, bon, j'ai pas dit, mais évidemment, la photo faisait partie de ma vie de manière complètement intégrante. Je prenais tout le temps mon appareil partout et les gens aimaient mes photos. Et les gens me demandaient derrière de leur faire des photos, ce que je faisais jamais, en tout cas rémunéré parce que j'estimais que j'étais pas assez bonne. Sauf que ça avait fait son petit bout de chemin dans ma tête et que ce jour-là, je me suis dit, non mais attends, t'es en train de galérer pour un truc que t'as pas envie de faire. Tu vas potentiellement trouver du travail, mais ça va être super mal payé comparé au nombre d'études que j'avais fait. Et je me suis dit, autant galérer en faisant un truc que j'aime. Visiblement, mes photos, elles plaisent. Et du coup, j'ai pris la décision vraiment de m'y mettre à fond. Et ce jour-là, vraiment, je vais sur Internet, j'ai commencé à regarder le matériel pro et j'ai pris de mes économies, j'ai mis en place tout, j'ai fait le site Internet dans les mois qui ont suivi. Et ouais, j'ai mis, je pense, 3-4 mois à tout préparer correctement. Et après, j'ai lancé l'activité au 1er janvier 2014.
2014, ok. Donc ça
Ouais.
fait 6 ans déjà.
Ouais.
T'estimes que tu as réussi à en vivre à partir de quand?
La première année, en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai pas dit, ce qui était drôle, c'est que forcément, ça arrive tout le temps comme ça. Je prends cette décision Et je crois, alors c'était pas le jour même, je crois que c'est le jour où j'ai acheté mon matériel. Enfin, c'était un jour significatif. Je reçois un coup de fil qui me dit, oui, je sais pas, j'avais dû passer un entretien, un truc comme ça. On me dit, ah, on vous propose un poste.
Le
Et
test.
du coup,
Il y a toujours
ouais.
la question test de est-ce que tu es vraiment sûr de toi?
C'est ça. Sauf que t'as quand même vraiment besoin d'argent. Enfin, besoin d'argent. Disons que c'est dur de refuser un travail quand on a cherché pendant si longtemps, enfin si longtemps, que tu as mis du tien en tout cas. Et je me suis dit, c'était un CDD qui pouvait se transformer en CDI. Donc j'avais pas cette impression de dire oui à un CDI pour ensuite partir. Et donc j'ai accepté le CDD. Donc l'avantage, donc quand je me suis décidée, ça devait être septembre, je pense. Les mois qui ont suivi, j'ai mis en place tout. C'est-à-dire, j'ai créé le site internet, j'ai fait des séances photos pour créer mon portfolio, etc. Pendant ce temps-là, j'avais le travail payé. Et donc, j'ai lancé en janvier. En février, j'ai démissionné parce que ça commençait déjà à bien marcher, mais pas à me sortir un salaire. Et je pense que 6 mois d'après, ouais, j'ai commencé. En fait, je sais que je me rappelle quand mon CDD s'est terminé en février, que j'ai dit non pour le CDI. J'avais droit au chômage et je sais plus comment ça se passe, mais en tout cas, on doit déclarer son chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur et il rééquilibre ou un truc comme ça. Et je sais que j'ai jamais eu d'argent du chômage, en fait.
Ok, parce que tu
Parce
avais
que
déjà.
j'ai. Voilà. Donc, je pense que même si je gagnais pas beaucoup, je gagnais assez.
Ok.
Et d'ailleurs, grand regret de ne pas avoir pris mes droits en capital. Ça fait partie des choses où, parce que là, je pense que c'est un peu pas le sujet de l'interview, mais ce dont on va parler, mais la confiance en soi et la confiance en son projet. Et vu que ce qui est normal, on l'a pas beaucoup au début, on se dit non, non, je garde ma sécurité. Et en fait, ça marche. On se dit, je me suis assise sur quand même un bon investissement pour l'entreprise.
Voilà, tu
Voilà.
aurais pu utiliser tes
Ouais.
arts, je crois que c'est les aides de Pôle emploi sous forme de capital pour acheter ton matériel, en fait.
Exactement, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut vraiment bien servir, mais bon, ça fait peur au début, tu te dis, ouais, mais après, si je me plains, j'ai plus rien. Mais bon, petit regret du début, mais ouais.
Bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon.
Ouais.
Donc ça, c'était il y a 6 ans. Pourquoi la photo? Comment est-ce que tu t'es découvert cette fibre?
Ça, je pense que c'est plus une question de souvenir. Je pense que j'ai grandi dans une famille où c'était très important, mais pas le côté artistique, même si on a envie de faire des jolies photos, mais vraiment le côté souvenir où on a des albums avec mes sœurs. Et ouais, tout qui était pris en photo à l'époque de l'argentique. Et je crois que j'ai gardé ça, en aimant avoir des souvenirs de tout ce que je fais, etc. Et donc c'est venu comme ça. C'est venu vraiment de moi vouloir garder des souvenirs de ma vie, de vacances, tout ça. Et il se trouve que quand je fais ces photos-là, visiblement, elles plaisent. Et
Yes.
du coup, les gens maintenant me demandent de les faire pour eux. Mais ouais.
Ouais. T'as pris des cours? Comment t'as fait pour apprendre à bien cadrer, gérer la luminosité?
Ouais. Pour le coup, non. Je me suis posé la question quand du coup j'ai décidé de me lancer en me disant est-ce que je ne ferais pas peut-être une école ou un BTS en même temps, sauf que ça coûtait une fortune. Et donc, il fallait faire un choix entre investir dans du matériel ou faire l'école. Et donc, je me suis dit que non. J'avais quand même des connaissances que j'avais prises toute seule sur le tas et sur Internet. Donc, j'avais, je pense, suffisamment de compétences et de connaissances pour me lancer. Et par contre, après, c'est allé crescendo grâce aux rencontres parce que, bah, du coup, avec les autres photographes, enfin, ouais, vraiment, les premières années, elles ont été marquées par ça, par plein, plein de rencontres avec d'autres photographes avec qui on échange, avec qui on fait des shootings en commun. Et là, vraiment, j'ai senti que je prenais du niveau grâce à ça. Et je pense que c'est vraiment, vraiment le mieux, quoi.
Ouais.
Ouais.
Comment tu les as rencontrés, ces autres photographes? Il y a des endroits, des réseaux?
C'était vraiment des rencontres. Je me rappelle, c'était marrant, mais j'avais fait la première année, on essaye. Donc c'était quand même il y a longtemps. En plus, Instagram était beaucoup moins développé et tout, donc on essaye un peu tout pour communiquer. Et j'avais fait des flyers que j'avais distribués dans les boutiques que j'aimais bien de ma ville. Et je sais que j'ai rencontré une de mes meilleures amies photographes avec qui j'ai énormément appris et avec qui j'apprends encore. Parce qu'elle a trouvé ce flyer et qu'elle m'a dit oh, tu veux venir goûter à la maison, je viens de déménager dans la ville. Et c'est ouais, que des rencontres d'hasard, entre guillemets, comme ça. Mais rien d'officiel, on va dire.
D'ailleurs, tu évoquais le fait d'avoir fait quelques shootings gratuits, je suppose, pour constituer ton premier portfolio. Tu en as fait combien pour donner un peu une idée à des gens et les prémunir de travailler pendant 3 ans gratuitement avant de commencer à
Je
facturer?
continue en fait, hein, je continue. On pourra en parler après, mais du coup, première année, premier mois avant de lancer officiellement, je crois que j'en avais fait un de chaque. Enfin, un shooting famille, un shooting couple, un shooting naissance. Et avant, quand j'ai démarré, je faisais que les particuliers. Ouais, je crois que j'avais trouvé un mariage sur un forum de gens que je connaissais pas. J'avais débarqué, enfin, je leur avais demandé, ils m'avaient dit OK. Et j'avais débarqué à la mairie sans les connaître, sans rien. Je leur avais fait quelques photos et j'avais eu le droit de les poster sur mon site. Parce que je n'avais jamais fait de mariage de ma vie. J'avais même pas fait un mariage d'amis ou rien. Personne se marie dans mon entourage. Donc, j'ai pris le mariage d'inconnu comme ça. C'était trop, enfin, maintenant que j'y pense, c'est rigolo. Donc, j'en ai fait assez peu, et je pense qu'après, honnêtement, je m'en rappelle pas, mais je pense que dans l'année, j'en ai quand même profité autour de moi de peut-être d'avoir mes amis, des choses comme ça, et d'en faire. Mais pas tant, en fait. Je dirais que c'est plus, tu vois, au bout de 3 ans, un truc comme ça, où je me suis dit, j'avais envie de tester des nouvelles choses. J'avais envie, bah, typiquement, de m'implanter dans une nouvelle région. Et là, pour cette raison-là, j'ai proposé des shootings gratuits, justement, bah, du coup, pour avoir plus de liberté et affirmer un peu plus mon style et aussi me faire connaître dans d'autres lieux. Ouais.
Ok, donc du coup tu dis nouvelle région, tu viens de Toulouse au départ?
Oui, au début, c'était que Toulouse.
Ok.
Et le métier de photographe étant très chargé l'été, ça veut dire que je vais passer mon été à Toulouse. Et moi qui adore la nature, c'était un peu difficile parce que normalement je suis tout le temps en vadrouille. Et donc je me suis dit que pour passer de meilleurs étés, j'allais orienter plus vers la côte basque et landaise. Donc à partir de là, bah, j'ai commencé avec un shooting offert à un couple d'amis, enfin qui est devenu amis depuis. Et c'est parti de là parce qu'effectivement, tu fais une séance et tu la montres après. Les gens, ils ont envie d'aller au même endroit et après tout s'enchaîne. Ouais.
Ok. Et donc là, tu es organisée, d'ailleurs, c'est assez rigolo en travaillant avec toi, tu es organisée de façon nomade.
Ouais.
Tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne pour prendre des rendez-vous
Et
avec toi, tout ça?
mais alors, chronologiquement, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que donc j'habitais à Toulouse. Je me suis dit, ah, mais je suis en manque de nature. Je m'implante un peu vers là-bas pour avoir quelques séances. Puis finalement, tout le monde a voulu faire des séances quasiment là-bas parce que les paysages sont vraiment magnifiques. Donc je me suis retrouvée une plus grande partie de l'année là-bas, en Airbnb, à galérer tout le temps.
Sur la côte basque.
Donc, exactement, sur la côte, je me suis acheté un petit van que j'ai aménagé pour pouvoir vivre dedans une grande partie de l'année. Et donc jusqu'à l'année dernière, c'était ça, en fait, c'était de environ avril à octobre. Je vivais dans le van. Et en gros, ce qui rythme un peu mon année, on va dire, c'est les mariages. Parce que j'ai des mariages un peu sur tout le sud-ouest. Et quand on me contacte pour des shootings, du coup, je peux dire, bah, telle semaine, je serai à cet endroit, telle semaine, à cet endroit. Et ce qui me permet un peu de balayer tout le sud-ouest et d'aller voir toutes les personnes qui me contactent. Et voilà. Et cette année, du coup, déménagement sur la côte. Même en hiver, donc abandon de Toulouse, plus de shooting là-bas a priori. Et donc là, ça va être plus côte basque landaise hors saison et en haute saison, les Pyrénées où finalement j'y passais plus de temps en été.
Vraiment
Vraiment
positionnement sud-ouest.
mode de vie semi-nomade parce que je bouge, mais quand même dans un secteur assez restreint.
Ouais, qui est une région magnifique que je connais pour y être aussi et dans laquelle à 100 km à la ronde, on a des paysages hyper différents.
Ouais, c'est ça, entre
Il y
montagne
a
et
tout à faire.
océan.
Donc du coup, peut-être que la question que peuvent se poser les gens qui nous regardent, c'est est-ce que c'est pas compliqué pour les clients de savoir à quel moment tu es où? Et là, du coup, moi, je vais répondre. Bah, déjà, allez voir son site internet. Hein, on peut aller directement sur son site. Mais tu précises, enfin, je ne sais plus trop comment c'est expliqué, mais en tout cas, tu te débrouilles pour que
Ouais.
ça soit assez clair que cette semaine-là, tu es dans telle région, cette semaine-là, tu es dans telle autre région.
Exactement. J'ai essayé de. Oh, je me suis fait avoir les premières fois où c'est moi qui bougeais en fonction des demandes et ça faisait vraiment faire des zigzags et beaucoup trop de déplacements et c'était assez épuisant. Et donc là, ce que j'ai mis en place, c'est un calendrier en ligne où on peut réserver les créneaux dispo et pour chaque créneau, il y a précisé à quel endroit je suis. Donc normalement, c'est assez simple.
Ouais. Et donc nous, la première visio qu'on a fait, t'étais dans ton van, dans ton bureau mobile, avec le petit chat qui mettait l'ambiance derrière. Pourquoi se cantonner juste au sud-ouest? Pourquoi pas aller en Espagne, dans le reste de la France?
Parce que ça prend trop de temps. Je pense que bon, ça prendrait trop de temps avec un véhicule récent, mais déjà, mon van est assez vieux, il date des années 80. Donc, il prend que les nationales et ça implique pas mal de logistique de bouger avec. Enfin, de logistique. Et donc, il faut bien calculer. Puis, il a des pannes souvent. Donc, on ne s'amuse pas à arriver pile au moment du rendez-vous. Il faut arriver quand même en avance pour être sûr d'arriver. Donc, pour ces raisons-là, sûr, je ne voulais pas aller plus loin. Et après aussi, parce que j'ai envie d'y aller doucement, de profiter des moments et de justement pas être tout le temps sur la route. C'est assez fatigant. On en reparlera peut-être. Mais c'est vrai que en ayant un travail en plein temps, et en devant inclure, enfin, pour les personnes qui n'ont pas un mode de vie comme ça, il faut s'imaginer les semaines normales où on va faire nos courses, enfin, tout ce qui est tâches ménagères, parce que c'est aussi le cas dans le van. Et à ça, il faut rajouter des heures et des heures de conduite. Et des fois, c'est pas, ouais, pas gérable et fatigant.
Ouais, c'est de l'énergie, c'est ça. C'est le
Ouais.
côté qu'on ne voit pas souvent des digital nomades, c'est que y a un côté logistique, adaptation, rechercher une connexion Wi-Fi à chaque fois
Ouais.
pour pouvoir
C'est
travailler.
ça, exactement. Ouais. C'est pour ça que quand tu es dans un lieu qui est beau et dans lequel tu peux travailler et tout, tu as envie d'en profiter et justement de pas devoir tout le temps repartir le lendemain pour aller ailleurs, etc.
C'est clair. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu travailles beaucoup avec les particuliers. C'est quoi ta répartition B2B, B2C?
Maintenant, c'est 50-50. Les premières années, c'était vraiment que particulier. Et puis les pros, c'est venu un peu tout seul parce que c'était les clients particuliers qui, dans leur activité professionnelle, au final, m'ont demandé. Vu que c'était des gens que je connaissais, je me suis dit oui. J'avais très peur du côté formel. En venant du droit et des RH, j'étais trop contente de pouvoir mettre des bisous à la fin des mails à mes clients et pas des cordialement ou mes sincères salutations. Et je voulais vraiment pas retomber là-dedans. Et au final, vu que c'était des clients que je connaissais déjà dans le cadre de séances famille ou tout ça, j'avais ce relationnel qui était bien. Donc j'ai accepté les séances pro. Et puis au final, je me suis dit, mais c'est moi qui crée la relation. Si j'ai envie de mettre des bisous à la fin des mails avec les pros, je peux le faire aussi. Selon les pros que je choisis et puis s'ils viennent pour ça aussi. Et donc là, maintenant, je suis à peu près ouais, à 50-50 pros et particuliers.
Et c'est aussi ta force. En fait, dans tes photos, dans le style de tes photos, c'est justement, on sort de la photo institutionnelle,
Oui.
corporate, costard cravate, machin, et on va vers une photo plus décomplexée, nature,
Oui,
plus dans
il
les
n'y
deux.
a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différence entre mes photos pro et mes photos perso.
Ouais.
Enfin, entre une séance famille et une séance pour un portrait pour un pro, ça va vraiment. Elles peuvent. D'ailleurs, dans mon portfolio sur mon site internet, on peut les trier, mais à la base, elles sont toutes mélangées et on voit aucune différence entre les photos qui ont été faites pour des professionnels, ouais, et des particuliers.
Est-ce que tu gagnes plus d'argent avec les pros qu'avec les persos? Tu as des tarifs différentiels?
Alors ça dépend. C'est-à-dire que normalement pour les professionnels, on fait payer les sessions de droit pour pouvoir les utiliser dans la presse, sur leur site internet. C'est quelque chose de très comment on dit, pas formalisé, mais voilà, il y a des tarifs, il y a des associations de photographes pros, etc. Des unions professionnelles qui déterminent ces tarifs. Sauf que vu que je travaille énormément avec des petits entrepreneurs, des artisans, des choses comme ça, et que ces cessions de droits peuvent vraiment monter très haut selon l'utilisation. Moi, j'ai choisi de, pour ces artisans-là, on va dire, de d'appliquer les mêmes tarifs à peu près que les particuliers. Disons que je calcule plus avec mon taux horaire, en gros, pour que ça revienne. Et après, quand c'est des grosses entreprises où là, elles vont utiliser mes photos pour beaucoup de support et se faire beaucoup d'argent grâce à ça, j'applique les cessions de droits classiques en plus.
Ok.
Ouais.
Il faut que tu fasses combien de shootings par mois pour être rentable, pouvoir te sortir un salaire? Enfin, c'est quoi l'équilibre, je travaille trop, je travaille pas assez?
C'est très, enfin, c'est difficile de répondre comme ça parce que comme c'est très saisonnier, j'ai vraiment une année, j'allais dire en dents de scie, mais pas en dents de scie, c'est de, donc, je vais reprendre depuis le début, mais par exemple, novembre, souvent, c'est le mois off où je prends mes vacances. Décembre, j'ai beaucoup de travail, plus pour la com de Noël, il y a pas mal de séances famille, des choses comme ça, et des fois des séances maternité, puisque on n'a pas le choix, ça tombe à ce moment-là. Et mais en tout cas, on va dire qu'après janvier, février, mars, j'ai quasiment pas de séance. Et parce que c'est un choix de prendre ce temps-là pour travailler sur mes projets, refaire ma com, travailler sur mon site internet, enfin tout ça. Et à partir d'avril, avril-juin, j'ai envie de dire peut-être que je dois faire une à deux séances par semaine. En tout cas, j'en prends pas plus. Parce qu'il faut le temps bah, justement de les traiter et puis de faire tous les à côté. Et après l'été, non, l'été c'est pareil. Donc j'en prends ouais, une à deux par semaine, j'en prends jamais plus, mais j'ai les mariages qui s'ajoutent. Donc la charge de travail est beaucoup plus importante puisque j'ai énormément à traiter. Et ça jusqu'à octobre, ouais. Vers mi-octobre, après ça se calme.
Ok. Un mariage, c'est plus de photos en par shooting. Tu fais un plus
Et
grand.
oui, les mariages, c'est vraiment énorme. Disons que les mariages, déjà, c'est entre ouais, 10 et 15 heures de reportage. Donc c'est aussi plus fatigant. Disons qu'il faut plus de jours de récup, quoi. Il faut les 2 jours de récup après bah, pour se reposer puis profiter. Et ensuite, je dirais, ouais, un mariage, il y a bien une semaine de travail dessus ensuite. Ouais.
Cool. Est-ce que tu sens que tu as un positionnement Instagram particulier?
Mon Instagram, gère un peu. Je sais pas comment le gérer. Non, mais il est. J'ai jamais voulu avoir plusieurs comptes. Et du coup, séparer un peu le perso.
Ouais.
Donc, mes photos perso de ma vie et le pro. Ce qui, du coup, est assez fouillis au final parce que il y a. Donc, bah, des photos, comme tu disais, de mon petit chat, de mon van, de mes vacances, de moi et aussi de mes clients. Et des fois, je me dis, mais en fait, si on ne me connaît pas, on doit pas savoir qui est quoi. Est-ce que ce chat, c'est le chat d'un de mes clients? Je pense qu'il faut me suivre quelques semaines avant de comprendre un peu mon compte Instagram.
Ouais, c'est pas grave ça.
Mais voilà, mais du coup, j'aime être libre et pouvoir vraiment poster ce que j'ai envie et que ce soit des commandes de clients ou des photos perso de ce que j'ai fait le week-end, quoi.
Ouais, c'est cool. Et du coup, tes clients, ils utilisent tes photos pour leur compte Instagram. Est-ce que tu vois ça beaucoup?
Oui, enfin, les pros, oui, ouais, les pros énormément. Les pros, ils me contactent principalement pour ça. Et de temps en temps, c'est quand ils sont en train de mettre en place leur site internet, qu'ils veulent le mettre à jour. Donc, il y a quelques photos utilisées pour le site internet, mais la plupart du temps, c'est vraiment réseaux sociaux et dans le but, ouais, de faire vivre l'Instagram plusieurs mois.
Ok.
Ouais.
Et tu parlais tout à l'heure de janvier, février, mars, qui est ta période où tu remets un peu à plat ta stratégie
Ouais.
d'acquisition, ton marketing, ta communication.
Ouais.
J'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a beaucoup de bouche à oreille aussi
Ouais.
dans ta façon de travailler, mais c'est quoi les choses que toi tu mets en place pour trouver des clients?
On va dire mes deux grands canaux d'acquisition, ça va être Instagram et le bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est vrai que c'est un métier qui le permet parce que c'est très visuel. Donc, les personnes voient les photos que j'ai prises pour d'autres personnes, etc. C'est vraiment plus simple que d'autres métiers, je trouve. Il y a ça. Il y a énormément aussi de recommandations entre photographes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très chouette, je trouve, dans ce métier. Parce que ce soit les mariages, ben, on peut en faire qu'un par samedi. Et la plupart des photographes, ils ne veulent pas en prendre beaucoup en saison. Moi, je sais que j'en prends entre 10 et 15 par an. Et les séances, c'est pareil, tu vois, c'est ce que je te disais. Je ne veux pas en prendre plus d'une ou deux par semaine. Et du coup, ben, tu arrives vite à saturation. Donc, tu recommandes les collègues et les collègues te recommandent. Donc ça, vraiment, c'est aussi un grand point d'entrée. Et j'ai envie de te dire, c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Tu sais, j'ai un petit questionnaire où je demande comment mon doigt est connu. Je crois qu'il y a ça. Instagram, recommandation d'un proche, recommandation d'un autre photographe et autre. Mais ouais, c'est...
Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Si on veut retrouver tes services, si on veut te retrouver sur Instagram, qu'est-ce qu'on cherche?
Donc, sur Instagram, c'est mon nom, Émilie Echen, comme elle disait, Eychene. Donc, ça, c'est l'Instagram. Et mon site, du coup, mon site pro, il s'appelle Remember Happiness Photography. Et là, en le cherchant sur Google, normalement, on arrive direct.
Yes. Bon, on mettra les infos en barre d'infos aussi pour cliquer facilement. T'as envie de donner un dernier petit conseil à des personnes qui, ou à une Émilie qui est en stage dans une entreprise RH et qui hésite à s'acheter un van pour devenir photographe?
Doser, doser. Honnêtement, je sais, j'ai oublié plein de choses, mais je me rappelle vraiment de ce moment où je me suis dit, mais où vraiment ça a fait un déclic en me disant, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Niveau financier, j'investissais dans du matériel, mais c'était raisonnable. Et surtout, j'avais calculé que si je le revendais par la suite, je perdais vraiment pas grand-chose. Donc, aucun risque financier. Donc là, c'est pour mon métier, en tout cas, ça n'impliquait aucun risque financier. Et j'ai l'impression que la seule barrière, après, c'est la peur de l'échec. Et c'est pareil, il y a eu ce déclic de se dire, mais si j'échoue, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ouais, échouer, c'est rien, en fait. Ça prouve qu'on a essayé et tant mieux, en fait. J'admire plus les personnes qui échouent parce que ça prouve qu'elles ont eu le courage d'essayer que les personnes qui font que réussir. Peut-être qu'elles ont... oser essayer plein d'autres choses. Mais
Ok, trop cool. Merci, Émilie. Si vous êtes dans le sud-ouest,
ouais.
ben, je vous recommande de passer, d'aller regarder un petit peu ce que fait Émilie parce que c'est vraiment très chouette. Et on te retrouve, ben voilà, on te retrouve sur tes réseaux.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
À très vite.
Bye.